Il va s'agir d'essayer de saisir comment les ancrages sociopolitiques dans le mouvement pour le climat s'articulent avec des formes d'engagement particulières et des conceptions plurielles de la catastrophe climatique, et d'essayer d'engager une réflexion sur quels peuvent être les horizons de ces différents ancrages et de ces différentes traditions politiques qui sont réinvesties dans le mouvement pour le climat. Alors, pour en venir directement à ce qui nous intéresse, en septembre 2018, en France émerge ce qu'on pourrait appeler, et on pourrait le remettre en question, mais un mouvement pour le climat, qui prend forme à partir d'une série de modes d'action, dont les manifestations, marches et grèves pour le climat, mais aussi des pétitions, notamment l'affaire du siècle qui assigne l'État en justice, des actions de désobéissance civile à partir de différents groupes collectifs, Extinction Rebellion, ANV COP21, et bien plus qu'une mobilisation citoyenne, ou pire qu'un mouvement de jeunesse ou une mobilisation générationnelle, ce qui nous semble le plus pertinent pour qualifier ce mouvement, c'est un terme finalement qui a été beaucoup utilisé pour qualifier le mouvement altermondialiste, qui est le terme de mouvement de mouvement, dans la mesure où il est structuré par une série de collectifs et d'associations qui se coordonnent donc pour organiser les événements autour d'une interorga et qui se démarquent par la pluralité de leurs perspectives politiques. Si ce mouvement, par son ampleur, parce que là on parle surtout des marches pour le climat massives avec plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues depuis septembre 2018, il y a évidemment eu des mouvements pour le climat avant, mais c'est cette forme massive dans des manifestations qui nous intéresse ici. C'est notamment parce que le répertoire d'action des marches collectives a été largement relégué au second plan, comme l'ont montré notamment les travaux de Sylvie Olitreau. Dès les années 1980, on voit les processus de décision s'ouvrir de plus en plus aux acteurs contestataires. En tout cas, c'est ce qu'elle montre dans son livre « Militer pour la planète », ce qui coïncide aussi avec la montée en puissance dans les mouvements écologistes, avec les profils à dominante scientifique et qui font du coup de l'ombre au profil à dominante politique qui s'investissaient davantage dans les modes d'action collectifs. Il y a plusieurs raisons à ce retour à une perspective politique du climat, du moins dans les modes d'action mobilisés. On va voir dans quelle mesure c'est un mouvement politique ou pas. Ça peut s'expliquer à la fois par l'échec partiel des négociations internationales, ce que Ami Dahan et Stéphane Aïkout ont appelé pour parler de la gestion mondiale du réchauffement climatique d'une fabrique de la lenteur dans les différentes arènes internationales, dont les COP, mais aussi d'un schisme de réalité entre d'un côté l'apparente gestion globale de l'enjeu climatique et la réalité de la dérégulation d'une économie désencastrée régie par les lois du marché. Donc cette réémergence, elle s'explique aussi de manière plus conjoncturelle par la médiatisation à l'été 2018, par la forte médiatisation des conclusions des rapports du GIEC, et en même temps d'autres dimensions plus politiques, notamment qui rendent sensible l'inaction gouvernementale avec la démission de Nicolas Hulot en France et puis dans le monde à la fin de l'été 2018, les actions au niveau transnational de Greta Thunberg. Alors la France est un peu à part, le mouvement climat en France est un peu à part dans la mesure où les mobilisations de jeunes ne sont pas parvenues à s'imposer comme le cœur du mouvement et les mobilisations transgénérationnelles se sont un peu imposées comme les mobilisations centrales du mouvement. Il y a un intérêt particulier, je crois, d'une réflexion sur les mouvements pour le climat dans le cadre d'un colloque sur les cosmopolitismes et qui nécessite de s'arrêter quelques instants sur le concept même de climat et de réchauffement climatique parce que le climat est d'emblée un enjeu cosmopolitique mais d'une forme particulière. C'est en un sens un peu étonnant le retour à des modes d'action politiques à partir d'un objet qui, lui, l'est très peu. Là où le tournant écologique, ontologique dont on a beaucoup parlé insiste sur la pluralité des mondes, l'objet climat est plutôt construit qu'un objet unifié et unifiant, très mathématisé. Ce qu'ont montré les travaux d'Ami Dahan, mais aussi de Bentley Allan dans le monde anglophone, qui insiste sur ce point en montrant comment c'est par l'usage des sciences géophysiques, beaucoup plus que par l'usage des sciences biologiques, que s'est constitué l'objet climat, en montrant que les sciences biologiques auraient pu laisser davantage de prise à l'incertain, à l'ouvert, voire à des perspectives locales, quand le climat, construit par les sciences géophysiques, est d'emblée un objet global. Et il retrace d'ailleurs de manière très intéressante la généalogie, y compris militaire, de cette construction de l'objet climat et l'investissement massif de l'armée américaine dans les sciences géophysiques et dans la construction du coup de cet objet climat. Donc le climat marque, en un sens, l'aboutissement d'une globale écologie qui correspond à une... On est pas mal là. Alors, on en arrive directement. Du coup, je passe au point 3 sur les catastrophes. Non, donc c'est l'aboutissement d'une écologie globale qui correspond du coup à une globalisation du traitement des enjeux et dont le corollaire est l'émergence de réseaux transnationaux, le mouvement de justice environnementale en partie, et plus spécifiquement sur la question du climat, le réseau Action Climat au niveau mondial, le Climate Action Network, au début des années 2010, qui marque a priori une transnationalisation de la lutte. Et du coup, les mouvements pour le climat qui apparaissent en 2018, avec leur caractère très national, malgré les différents liens qui émergent au niveau international, apparaissent de ce point de vue-là comme une renationalisation, peut-être même une démondialisation relative d'un mouvement qui est né, a priori, et d'une mobilisation sur le climat qui est né comme un objet mondial, parce que l'objet même du climat l'imposait. Alors le parti pris de cette enquête, c'est que cette mathématisation et cette quantification très forte de l'objet climat ne rend pas en tant que tel caduque l'objet climat et les mobilisations politiques autour du climat, précisément parce que cet objet-là ne fait pas sens en tant que tel, mais est toujours interprété par une série de traditions politiques, d'ancrages sociaux, de dispositions aussi de genre qui lui donnent un sens particulier et qui donnent à voir du coup des formes d'engagement particulières. Donc c'est ce que je vais essayer de montrer dans cette présentation. Je fais un point très rapide sur les données qui vont être mobilisées, y compris parce que cette communication s'appuie sur un ensemble de matériaux collectés d'abord dans le cadre d'un collectif, qui est le collectif Quantité Critique, composé de divers chercheurs et militants, et dont je remercie les membres de m'autoriser à restituer ici certains résultats d'une enquête qui est a priori collective et à laquelle s'ajoute une enquête plus personnelle dans les prolongements de ces travaux quantitatifs sur le cœur du mouvement climat, avec un recensement des organisations, diverses observations et une série d'entretiens. Donc on a enquêté sur 6 événements de rue. La marche pour le climat du 13 octobre 2018 à Paris, qui a rassemblé 30 000 personnes. L'Agora pour le climat, place de la République, le 27 janvier 2019, qui a rassemblé 4 000 personnes et qu'on peut considérer, par certains aspects, comme un rassemblement du cœur du mouvement et des personnes les plus mobilisées dans le mouvement, par le caractère plus restreint de la mobilisation. Et 4 grèves des jeunes pour le climat, le 15 mars 2019, simultanément à Paris, Lille et Nancy. Et on a recontacté ensuite les personnes qui nous ont répondu pour leur proposer des entretiens qualitatifs et avoir un retour sur leur engagement pour saisir mieux les trajectoires militantes. Et enfin, la grève pour le climat du 20 septembre 2019 à Paris, moins massive que celle du 15 mars 2019. Donc on a conscience dans le collectif des limites du quantitatif, y compris pour rendre compte des traditions et des horizons politiques qui sont en jeu dans un mouvement qui nécessite une approche plus fine. Pour autant, cette démarche a été adoptée face au constat d'un relatif manque de données quantitatives sur les mouvements sociaux, et y compris sur les mouvements écologistes. L'accent sur les carrières militantes et les modes d'action les plus radicaux, qui demandent le plus d'investissement, c'est essentiel dans la mesure où ça donne à voir la richesse des engagements intenses, mais ça nous semble manquer une figure pourtant centrale dans les dynamiques politiques, qui est celle du ou de la sympathisante ou sympathisant, celle ou celui qui s'investit le temps d'une marche pour le climat, qui sèche un cours pour aller faire rassemblement. Cet engagement par son intermittence du sympathisant qui vient dans une mobilisation est difficile à saisir et nécessite du coup une mobilisation suffisamment nombreuse de collègues chercheurs lors d'un événement. Et c'est l'objectif et la particularité, je crois, du collectif Quantité Critique, d'être capable de mobiliser un certain nombre de collègues, d'étudiants, de chercheurs formés à la passation de questionnaires pour enquêter sur les dispositifs. Et c'est également, à notre sens, la capacité, la réappropriation de la capacité pour le mouvement de se compter et de se donner à soi-même ses propres catégories pour approcher peut-être le moment, pour reprendre les mots de Deleuze, du passage au nombre nombré qui réifie et qui fige, au nombre nombrant qui est incapacitant. Et c'est pour ça que les questionnaires ont été sans cesse réélaborés au fil de cette enquête, en discussion permanente avec les militants eux-mêmes, à la fois pour être aux prises avec les débats qui les animaient et pour pouvoir répondre tout simplement aux questions qu'eux-mêmes se posaient. Donc au total, c'est environ 3000 questionnaires sur ces 6 différentes actions qu'on a collectées. Et donc je vais essayer de répondre à la question: quels sont les horizons cosmopolitiques qui se dessinent dans le mouvement contre l'inaction climatique ? avec un plan dont je m'excuse par avance, de la dimension linéaire, qui commencera par les ancrages sociaux, politiques, à partir duquel les gens se mobilisent pour comprendre ensuite les pratiques effectives à la fois dans leur vie quotidienne et collective, et au final, les perspectives et les horizons politiques de ce mouvement, comment il a évolué depuis 3-4 ans, et comment il donne à voir différents horizons politiques. Donc je commence par les ancrages sociopolitiques du mouvement pour le climat. Je passe, par manque de temps, sur la diversité organisationnelle du mouvement et les clivages inter-organisationnels qui se sont donnés à voir notamment dans le soutien ou pas à la Convention citoyenne pour le climat. Je prends toutefois soin de le mentionner au cas où cette évocation nourrisse des volontés de questions dans le temps du débat. Et je passe au public des grèves pour le climat avec un repérage des propriétés sociales. Ce qui me semble le plus important de dire, et pour commencer, c'est que c'est un mouvement qui est majoritairement féminin, avec une surreprésentation des femmes dans la mobilisation, avec dans l'ensemble des marches et des événements qu'on a enquêtés, environ 2 manifestantes sur 3 qui sont en fait des femmes, et ça se retrouve aussi dans les grèves des jeunes pour le climat. Donc les jeunes pour le climat, je vous la fais rapidement, c'est pas l'ensemble des jeunes qui se mobilisent, mais c'est surtout les filières générales pour les lycéens, une très faible présence des filières technologiques, et une division au sein des étudiants entre une majorité de personnes dans des cursus de sciences humaines et sociales à 40%, mais en même temps, 20% d'élèves en école d'ingénieurs et en classe préparatoire qui ne sont pas toujours les publics qui se mobilisent le plus, mais qui, sur cette question-là, se mobilisent. On verra comment les parcours d'études aussi sont à prendre en compte dans les différents imaginaires qui émergent. Ce qui apparaît en fait de manière très forte, c'est que c'est surtout les bons élèves, pour le dire très vite, les élèves qui réussissent et qui n'ont pas peur pour leur avenir, y compris professionnel, qu'on retrouve dans ces grèves pour le climat, avec une question aussi triviale que « est-ce que vous considérez que vous avez des bonnes notes par rapport au reste de la classe ?» Ils sont extrêmement majoritairement disposés à répondre que oui, ils sont plutôt dans les bons élèves, à la fois chez les étudiants et chez les lycéens. Du point de vue des catégories socio-professionnelles, pas seulement des grèves pour le climat, mais de l'ensemble de la mobilisation, la surreprésentation du salariat très qualifié, des cadres et des professions intellectuelles supérieures, et une constante dans l'ensemble des mobilisations. Donc là, vous avez la première, c'est la marche climat du 13 octobre, ensuite c'est l'Agora pour le climat. On voit qu'à l'Agora pour le climat, la surreprésentation des cadres est un peu moins présente, qui s'explique par une plus forte présence de personnes sans activité professionnelle, y compris parce qu'au cœur du mouvement, on a davantage de trajectoires professionnelles, de tentatives de bifurcation professionnelle qui donnent, et d'engagement militant qui laissent davantage la place à des moments de chômage. Et donc au cœur du mouvement, c'est pour ça qu'il y a aussi moins de cadres et professions intellectuelles supérieures. Et quand on s'intéresse aux parents des jeunes qui se mobilisent, plutôt que d'avoir affaire à un élargissement de la base sociale du mouvement avec l'émergence de jeunes et d'une nouvelle catégorie, on a surtout une intensification de la présence du salariat qualifié dans la mobilisation autour des cadres et des professions intellectuelles supérieures. Alors, c'est pas tout le salariat qualifié qui est mobilisé, mais c'est des franges assez précises, des secteurs assez précis qui sont surreprésentés, le secteur de l'enseignement et de la recherche, le secteur de la santé, tout ce qu'on pourrait qualifier comme la main gauche de l'État, et le monde associatif également, très représenté. Et on n'a pas affaire à l'ensemble des salariats qualifiés. Néanmoins, l'arrivée des jeunes dans la mobilisation, les jeunes viennent davantage de l'ensemble des branches du salariat qualifié, y compris des secteurs commerciaux, du secteur de la banque, qui étaient très peu présents dans les manifestations transgénérationnelles. Après ce point la particularité aussi, pour montrer tout simplement de quoi je parle et de quel mouvement je parle, c'est pas l'ensemble des militants écologistes, et c'est des militants écolos très particuliers, très orientés vers le salariat qualifié. Ils sont aussi très particuliers politiquement. Alors, ça peut sembler trivial, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est pas si trivial que ça, et ça nécessite de s'arrêter dessus quelques minutes. Ils sont à gauche et très à gauche. Très majoritairement dans les manifestations transgénérationnelles, donc du 13 octobre 2018 et du 27 janvier 2019, avec une absence totale des groupes qui se déclarent à droite et un peu une montée en force des gens qui se prononcent pas ou qui se disent ni à droite ni à gauche dans les grèves pour le climat des jeunes, qui marque aussi qu'il y a certains publics pas a priori politisés mais qui se politisent à travers la participation aux marches sans se définir a priori sur l'échelle gauche-droite. Pour aller un peu plus dans le détail de leur positionnement politique, il y a une très forte critique du système capitaliste dans la mobilisation. Et ça paraît important de le dire. Il y a des différences en fonction des marches pour le climat, mais de point de vue général, 33% des gens se déclarent tout à fait d'accord avec l'idée qu'il est nécessaire de sortir du système capitaliste tout simplement pour enclencher une dynamique pour résister à la catastrophe écologique qui s'annonce. Un tiers est plutôt d'accord avec cette affirmation, et un autre tiers soit ne se prononce pas sur la question, soit n'est pas d'accord avec la question. Donc on a quand même la majorité du mouvement qui se prononce en faveur d'un anticapitalisme. Et donc je voudrais simplement nuancer le caractère apparemment trivial du positionnement à gauche de la mobilisation. Faut se rappeler du caractère aussi très scientifique des énoncés du GIEC et qui se traduit dans un énoncé politique a priori uniquement quantitatif, qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui pourrait apparaître comme une revendication unanimement partagée dans la classe politique. Le fait que s'en empare dans la mobilisation et de manière concrète uniquement des personnes qui s'inscrivent dans des traditions de gauche, plutôt hostiles au capitalisme, donne à penser aussi un rapport des sciences aux politiques. Il y a certes de bonnes raisons de soutenir une politique climatique ambitieuse, quelle que soit la politique climatique qu'on veut soutenir, mais il est marquant que seuls s'en saisissent les traditions politiques hostiles au capitalisme, et on essaiera de comprendre un peu plus tard peut-être pourquoi. Autre élément sur la forme du mouvement et les horizons politiques, les positionnements politiques dans le mouvement qui me semblent intéressants, sur la question de la planification. 7% des personnes, lors de la grève pour le climat du 20 septembre 2019, on a posé cette question-là parce qu'elle nous semblait intéressante, se disaient très favorables à l'idée de planification. 43% plutôt favorables, et donc 22% plutôt défavorables ou très défavorables à l'idée de planification, qui montre quand même qu'il y a plus de 50% des gens qui se déclarent favorables à l'idée de planification, qui implique quand même un niveau d'intervention étatique. Alors on peut parler d'une planification, de planification régionale, mais on peut ou décentralisée, mais on peut supposer qu'elle nécessite quand même un investissement étatique et que ça donne à voir aussi une volonté de la part d'un certain nombre de militants pour le climat de se saisir de cette question de l'État. Et la décroissance aussi, il y a un soutien assez fort de la décroissance dans ces mobilisations-là. 60% ont un avis positif sur la décroissance, 20% un avis négatif et 20% ne se prononcent pas sur l'idée de décroissance. Et donc ça fait apparaître, en croisant un peu les deux, différents horizons et des tensions internes entre des formes de planification décroissante qui correspondent à un tiers de la mobilisation, c'est-à-dire une transformation de l'orientation de l'appareil productif au niveau national par une planification étatique vers davantage de sobriété et vers la décroissance. Un groupe plutôt favorable à la planification qui est autour de 20% sans être favorable à la décroissance, davantage tourné vers un État mais sans remettre en cause le critère de croissance. Et puis 30% sont favorables à la décroissance sans être favorables à la planification, qui montre aussi qu'il y a d'autres imaginaires que simplement l'imaginaire étatique de planification qui émerge dans le mouvement. Je dis très rapidement un mot sur les filiations des positions politiques. Elles sont aussi très importantes dans le mouvement. Pour le dire en un mot, parce que je ne veux pas m'attarder là-dessus, je pense qu'il y a d'autres choses plus intéressantes à dire, mais globalement, les gens qui sont de gauche dans la mobilisation et qui se mobilisent pour le climat de manière radicale ont des parents très à gauche et anticapitalistes. C'est-à-dire que l'imaginaire du renouveau générationnel ou du mouvement générationnel est vraiment à remettre en perspective par rapport à des filiations politiques, familiales, qui sont très fortes dans le mouvement. Je ne m'attarde pas sur le graphique. Comment ça se matérialise dans un engagement concret et dans des modes d'action? on a réalisé une ACM sur le manifeste étudiant pour un réveil écologique. Ça avait l'avantage d'être la base la plus large qu'on avait, avec des gens qui ont... c'était un panel de manifestants plus large et qu'imposés, avec notamment des gens plus centristes dans la mobilisation et qui donnaient à voir aussi d'autres manières de s'en saisir. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est la manière très forte avec laquelle est corrélé un fort niveau d'engagement au niveau individuel, quotidien, et des orientations anticapitalistes et très à gauche. Inversement, plus on considère que les choix individuels et les pratiques quotidiennes sont importantes dans la résolution de la crise écologique, si on peut parler de résolution de la crise écologique, moins on les pratique. C'est-à-dire, il y a aussi une forme d'éthique de la pratique quotidienne qui est complètement déconnectée de l'enjeu de l'utilité de ces pratiques quotidiennes et qui remet en jeu aussi des dispositions de genre qui sont absolument massives. Je n'ai pas assez parlé de la manière dont le genre structurait ça, mais les pratiques de transformation de soi et de transformation de son quotidien sont très majoritairement pratiquées par les femmes. C'est là-dessus, dans la mobilisation, qu'il y a le plus gros écart dans les pratiques entre les femmes et les hommes. Ça implique, à mon avis, de déplacer le simple cadre de pensée qui fait des gestes du quotidien la seule et unique incarnation d'un processus de dépolitisation néolibérale de la question climatique. Si on déconnecte la question des gestes du quotidien de son utilité, ceux qui ont la capacité de transformer le plus radicalement leur quotidien, soit leur consommation... Le rapport entre consommation de viande et radicalité est absolument massif dans nos données, avec des courbes parfaitement plates, géniales. Mais les modes d'action qui sont au milieu, ça ne veut pas dire que c'est davantage les réformistes qui les font, c'est que c'est davantage bien réparti sur l'ensemble de la sphère, et du coup, ils se situent davantage au milieu, mais ce qui ne veut pas dire que c'est davantage ceux qui sont au milieu qui les pratiquent. Par contre, qu'on voit, c'est ceux qui disent, plutôt du côté des centristes, on a utilisé des catégories un peu larges, mais c'est pour montrer aussi qu'il y a des tensions, des clivages politiques internes. Ceux qui sont le choix individuel d'accord plus, et ceux qui disent que les choix individuels, c'est très important, c'est ceux qui sont le plus proches des 4 allers-retours en avion par an, de la consommation de viande plus de 4 jours par semaine, etc. Donc il y a aussi une forme d'éthique et de pratique de soi qui n'est pas du tout anecdotique dans le mouvement et qui met en jeu à la fois des ancrages politiques et des dispositions de gens. J'en passe aux actions collectives, parce que c'est là qu'on va voir les clivages qui sont importants pour ce que je vais essayer de développer par la suite dans le temps qui m'est... dans le temps que j'ai encore. Ce que montre le mouvement pour le climat, c'est qu'il y a une hégémonie du soutien à la désobéissance civile, ou une quasi-hégémonie du soutien à des actions qu'on peut qualifier d'actions de désobéissance civile, notamment le blocage d'infrastructures polluantes, avec des intensités d'engagement qui sont moins fortes que dans le mouvement altermondialiste, par exemple, mais qui donnent à voir aussi qui étaient aussi très forts dans le mouvement altermondialiste. La différence avec ces mouvements-là, c'est le très fort rejet des dégâts matériels. 80% des gens, enfin, il y a seulement 20% des jeunes dans les grèves pour le climat qui soutiennent les dégâts matériels. Ça nous paraît important de faire ce point-là, aussi pour montrer la forte prégnance d'un imaginaire de la non-violence stricte dans la mobilisation, qui s'explique par plein de raisons, notamment transnationales, avec... la conceptualisation d'Extinction Rébellion, mais aussi au niveau français et dans la mobilisation en France. Une des fortes racines du mouvement climatique, c'est dans le Pays Basque, c'est Bici en marge de la COP 15 de Copenhague, et qui a vraiment construit son imaginaire politique et son positionnement politique contre la lutte armée dans le Pays Basque. Et donc c'est aussi cette opposition à la lutte armée qui a été contrebalancée par une non-violence extrêmement stricte, qui explique en partie la très faible mobilisation, le très faible soutien aux dégâts matériels. Ce que montre aussi l'enquête, c'est que les dispositions politiques, le fait d'être très à gauche, d'être très anticapitaliste, est très corrélé au fait d'être prêt à pratiquer des actions des infrastructures polluantes, etc., qu'il y a l'ancrage social dans des traditions de gauche est aussi vient aussi surdéterminer le fait d'être prêt à participer à des actions de désobéissance civile. Pour ce qui est du soutien aux dégâts matériels, il est mis en débat. C'est les espaces où il y a davantage de débats sur est-ce qu'il faut ou pas faire des dégâts matériels. C'est chez les personnes qui sont le plus radicalement anticapitalistes, mais aussi la variable probablement la plus structurante, c'est le rejet de la technologie comme étant une solution ou une solution de la crise à la crise écologique. C'est-à-dire que le fait d'être opposé à l'idée d'une toute forme de solutionnisme technologique, pas les plus radicaux, permet aussi d'avoir un rapport à ce qui nous entoure, aux machines autour de nous, différent, et qui conduit à des renégociations de la frontière entre la violence et la non-violence qui sont plus radicales. Mais ce qui surdétermine, à mon avis, le fait de participer à la désobéissance et à des formes de désobéissance, c'est le rapport à l'urgence et le rapport à une forme de catastrophe. Dans l'urgence, c'est un thème qui revient en permanence à la fois dans le discours des militants pour le climat, dans les entretiens, dans les différentes organisations. C'est ce qu'a structuré comme mot d'ordre l'urgence à agir, le mouvement pour le climat. Et donc étymologiquement, l'urgence, ça vient de urgeo, qui veut dire pressant, et au sens de pression, qui peut exercer une force et qui peut aussi mettre en mouvement. Et ce qu'on voit, c'est que ceux qui considèrent que le point de non-retour est déjà atteint et qu'on peut simplement limiter les dégâts sont beaucoup plus engagés dans des formes de désobéissance civile que ceux qui considèrent qu'il faut agir vite, mais on a encore le temps. Se positionner dans la temporalité du déjà-là de la catastrophe conduit aussi à des pratiques de la désobéissance civile qui sont plus intenses. Pour autant, la catastrophe, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Et ce qu'on a essayé de mettre à jour de manière un peu plus précise, c'est comment les différentes traditions politiques déplacent et donnent à voir différentes conceptions de la catastrophe. Les plus modérés de la mobilisation, qui correspond plus ou moins au pôle centriste que j'identifiais tout à l'heure sur la CM, c'est ceux pour lesquels la catastrophe va être spectrale, c'est-à-dire une évocation lointaine de la catastrophe, mais qui est jamais saisie, qui nécessite jamais une gestion des émotions, donc qui est présente dans le discours, mais qui n'implique pas un travail sur les émotions qui pourrait mettre en mouvement. Et ensuite, il y a différentes formes de conception de la catastrophe. Les plus modérés ont une conception de la catastrophe qui est une catastrophe plutôt sociale, c'est-à-dire avoir une focalisation sur les différentes catastrophes qui peuvent émerger, les formes d'inondations, c'est les événements de l'actualité qui remettent en jeu dans leur imaginaire de la catastrophe. Et puis, dans les pôles les plus radicaux, il y a deux imaginaires un peu qui s'affrontent. L'imaginaire des résilients, avec une catastrophe écologique d'ampleur du climat et de la biodiversité qui implique, et c'est beaucoup des ingénieurs et des filières scientifiques qui se retrouvent dans cet imaginaire-là, un retour vers des pratiques de soi très fortes et des tentatives de résilience, et un autre imaginaire d'une catastrophe sociale et écologique liée au capitalisme et à la conséquence du capitalocène, et qui donne simplement à dire, je ne m'arrête pas plus longtemps là-dessus, mais qui donne simplement à voir la diversité des formes de catastrophe. Ça me semble intéressant de s'intéresser là-dessus parce que ça montre que les conceptions de la catastrophe ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et si les élaborations théoriques actuelles insistent beaucoup sur le concept de forme de vie, je crois que c'est ici important de remettre à jour ou d'essayer de faire valoir le concept de forme de mort. Et Estelle Ferraresse et Sandra Logier définissent la forme de vie comme la manière dont les relations sociales entre citoyens s'ordonnent au quotidien, et les formes de vie dans leur multiplicité et leur variabilité en viennent à désigner des styles de vie. Globalement, la forme de vie est assez proche de ce qu'on entend dans le colloque, j'ai l'impression, par le concept de monde, en tant que c'est ce qui va ouvrir un espace des possibles. S'intéresser au concept de forme de mort, qu'on trouve dans le texte de Norman Ajari dans La dignité ou la mort, mais avec un sens assez différent, c'est donner à voir à la fois la manière dont la catastrophe écologique et l'urgence vient faire peser la menace sur toutes les formes de vie d'une possibilité de la mort, mais en même temps avec des formes que prend cette mort extrêmement différentes selon la manière dont on la conçoit et selon nos ancrages sociaux et politiques. ça permet de renforcer l'idée qu'un monde ne se définit pas intrinsèquement, mais pas tout à fait comme différence par rapport à d'autres mondes, mais aussi et surtout par rapport à un imaginaire particulier de la destruction, c'est-à-dire par rapport aux autres mondes, dans les mesures où les autres mondes matérialisent la possibilité de la destruction de ce monde-là. Qu'il y a toujours à voir, en prenant au sérieux aussi cette tradition de vitalisme critique, qui, partant de Bichat, qui dit que la vie, c'est toutes les fonctions qui résistent à la mort. Il y a aussi, en mettant à jour la diversité des formes de mort qui peuvent exister, et des conceptions de la destruction dans le mouvement, quelque chose qui donne à voir la pluralité aussi des imaginaires. Je vais essayer d'expliquer pourquoi en quelques minutes pour finir. Après avoir dépeint ces différentes formes d'engagement et leur rapport à la catastrophe, quels horizons cosmopolitiques du mouvement pour le climat ? D'abord, l'intensification de l'urgence et les circulations militantes tendent à renforcer la radicalité des modes d'action. Le caractère de plus en plus pressant et l'échec des marches pour le climat a modifié la politique étatique depuis quelques années, conduit de plus en plus de militants, y compris d'organisations classiques, à déserter les marches pour le climat pour se tourner vers des modes d'action plus radicaux, en mettant en avant le fait que l'urgence rend nécessaire d'autres modes d'action. La deuxième dimension, c'est la translocalisation du mouvement. C'est pas seulement des modes d'action plus radicaux, mais c'est aussi des modes d'action plus ancrés dans les territoires. La dynamique du soulèvement, des soulèvements de la Terre donne bien à voir la manière dont des gens qui s'engageaient a priori dans Youth for Climate ou dans d'autres formes de lutte se sont retrouvés progressivement avec la volonté d'ancrer leur lutte davantage dans des luttes territorialisées, avec toujours un lien entre ces différentes luttes et des partages d'expériences qui persistent. La troisième dimension, depuis 3 ans, c'est la désectorisation de l'écologie et le tissage des relations interluttes. Le mouvement des Gilets jaunes a confronté le mouvement pour le climat à la particularité de son ancrage social, ce qui a donné lieu au slogan « fin du mois, fin du monde, même combat », mais qui les a forcés à s'interroger sur l'idée d'une écologie populaire. Mais ce n'est pas la seule dynamique qu'on a vue. Il y a à l'été 2020, Alternatiba, qui est une des organisations les plus classiques du mouvement pour le climat, qui a co-organisé une marche pour le climat avec le collectif Justice et Vérité pour Adama, avec le slogan « On veut respirer », sur lequel je vais revenir dans 2 petites secondes. Et enfin, avec les collectifs féministes, notamment pendant la marche pour le futur, où se sont agrégées ces différentes formes de lutte. Donc il y a aussi une volonté de désectorisation de l'écologie, qui est un mouvement initié par les franges les plus radicales du mouvement pour le climat et qui a donné lieu à beaucoup d'opposition au sein du mouvement. Ce n'est pas un mouvement massif, mais c'est un mouvement qui a été initié à la suite de débats entre une frange modérée qui considérait finalement l'écologie comme quelque chose à part, suffisamment surplombant pour englober l'ensemble des autres formes de lutte et se concentrer uniquement sur cet enjeu-là, et des formes de transversalisation plutôt qui s'ancrent qui fait le lien avec différentes formes de lutte. Et ça sera mon dernier mot et la dernière idée que j'essaierai de faire passer ici, c'est que cette transversalisation s'appuie sur la montée en puissance des thématiques du vivant et même de la survie et de la survie des formes du vivant comme principe à la fois unifiant et différentialisant de ces différentes formes de lutte. Je cite Extinction Rebellion, les données scientifiques sont claires, nous faisons face à une urgence mondiale sans précédent, ça on sait. Il s'agit d'une question de vie ou de mort pour l'ensemble des êtres vivants, humains responsables et non humains, embarqués avec nous dans cette catastrophe sans en être responsables. Cette montée en puissance du vocable du vivant, elle n'est pas seulement cantonnée à l'écologie politique. Le slogan « On veut respirer »,« I can breathe » et du mouvement de Génération Climat, Génération Adama, c'est aussi c'est l'alliance, donc comme l'a dit Léna déjà hier dans son intervention, c'est à la fois des formes d'alliance à distance, mais c'est aussi du coup dans la pratique l'action conjointe de militants antiracistes et écologiques avec un slogan qui marque l'affirmation d'une commune menace sur la vie, mais d'une différence des formes de mort qui pèsent sur chacune des luttes. C'est pas la même chose d'être menacé par la catastrophe écologique globale que d'être menacé par les policiers. Pour autant, la catastrophe écologique, en déplaçant les frontières de la survie et en rendant finalement les classes supérieures engagé dans cette question de la survie fait tenir, à mon avis, ou en tout cas peut faire tenir, ce slogan, l'unification, l'unité de la menace, de la forme de mort massive qui pèse sur l'ensemble des formes du vivant, et en même temps les différences qui peuvent exister dans ces formes de mort. Ce thème du vivant, on le retrouve aussi dans d'autres formes de lutte. Hein. La lutte contre les féminicides participe également à cet enjeu, et le slogan que rappelait Geneviève Pruvot ce matin sur l'écoféminisme ou la mort montre bien aussi cette résurgence du thème de la vie. C'est aussi autour de cette capacité de cette question de la capacité à vivre qui se retrouve rejouée à une échelle transnationale, cette fois-ci au niveau des marches internationales, notamment en marge de la COP26, où on a vu des populations insulaires, indigènes et directement concernées par l'effondrement de leur monde, à la tête des grandes marches en marge de la COP26 de Glasgow. Ce qui donne à voir à la fois l'unité, la menace qui pèse sur l'ensemble des formes du vivant et les différentialisations des formes de mort qui permet, à mon avis, de penser l'unité de la pluralité des mondes et en même temps l'unité et la pluralité des mondes. C'est cette tension qui existe aussi dans le slogan « maintenir la terre habitable », cette question d'habitabilité qui met en jeu à la fois un concept de vie et un concept de monde. L'habilité, c'est à la fois le maintien des conditions de survie biologique, mais c'est aussi une manière d'habiter, d'être au monde, de faire monde et une manière de disparaître, pour chaque monde, de disparaître particulière. Je ne pense pas, comme Michael Fossel, qu'il faille choisir le monde contre la vie, avec la vie qui serait forcément réifiante, forcément conservatrice dans sa défense de la vie face à un monde qui serait, lui, nécessairement ouverte, mais qu'il y a, dans cette émergence du vocable de la vie, la possibilité de construire un horizon de la diversité des formes de vie en lien avec la diversité des formes de mort qui pèsent sur elle. Et donc il y a deux horizons, à mon avis, qui émergent de manière massive, et ça sera mon dernier mot. C'est celle de... on ne peut pas, à mon avis, faire l'économie d'un retour au concept de biopolitique et de cette tradition de la biopolitique chez Foucault. Et c'est aussi une menace dans ce vocable de la vie. C'est dans l'horizon du cosmopolitisme, l'objet climat qui peut devenir la force propulsive d'une biopolitique mondiale qui se traduirait par un contrôle accru pour la protection de la vie, mais d'un contrôle accru du coup de la vie et des vivants par une juridicisation et une technologisation massive, pour appeler un peu barbare, mais une bio-cosmopolitique, c'est-à-dire où le concept unifiant de vie viendrait réifier un peu essayer de fermer les horizons dans une simple défense de la vie et un contrôle accru. Mais ce n'est pas le seul horizon. Et ce qui émerge avec ce vocable de la vie, c'est peut-être autre chose qui déplacerait la tension entre monde et vie, parce que la catastrophe au singulier n'est pas en soi dépolitisante. Toutes les formes de vie aujourd'hui, et c'est ce que nous apprend la catastrophe écologique, sont confrontées à des formes de mort, mais ces formes de mort diffèrent. Et dans l'horizon de la transversalité des luttes autour du vocable de la vie, s'ouvre peut-être la possibilité d'une prise de conscience de la pluralité des formes de mort qui pèsent sur la diversité des vies. Et je m'arrête là-dessus.